Néo-Québec Chronique.
Je vous propose d'écouter le billet de Palina.
Allô Cyril, ça va bien?
Ça va et toi?
Oui, ben cette semaine, comme j'avais dit la semaine dernière, j'ai envie de continuer de parler justement de l'annulation du spectacle d'Iphigénie au Théâtre Prospero à Montréal, parce que je vous avais seulement donné une entrevue, mais là j'ai envie de vous expliquer la situation de qu'est-ce qui se passe. Donc, bien sûr, l'annulation du spectacle à Prospero a créé beaucoup de remous dans le milieu théâtral. Si je vous parlais d'une crise dans laquelle le théâtre se trouve depuis un bon moment déjà, et les différentes initiatives qui surgissent par les artistes pour creuser la question en ce moment. L'entrevue qu'on a entendue la semaine dernière avec la comédienne Jade Barchi, c'est d'ailleurs pour vous mettre en lumière une de ces initiatives-là, en réponse à plusieurs spectacles qui se sont vus refuser leurs subventions, malgré que les spectacles soient déjà programmés dans des lieux de diffusion reconnus. Moi, juste quand la publication est arrivée, là, j'ai vu des gens de partout au Québec repartager et commenter cette publication qui a été écrite par le théâtre, qui est intitulée « Vous ne verrez pas Iphigénie ». C'est une publication que juste sur les réseaux sociaux de Facebook que j'ai regardé, qui a été partagée plusieurs centaines de fois. Parce que la situation avec le spectacle Iphigénie, c'est extraordinaire parce qu'ils ont osé annuler au lieu de jouer dans des conditions effroyables, parce que le Prospero a pris publiquement position, mais un spectacle produit sans financement, c'est loin d'être une situation nouvelle. Je cite ici le Prospero. Chaque saison, des équipes de création dont les spectacles sont programmés dans les théâtres reconnus se voient refuser les subventions nécessaires à la réalisation de leurs projets. Cette année, ce nombre est encore plus important et les compagnies touchées se voient alors contraintes de produire des œuvres grâce au travail acharné d'artistes peu rémunérés ou de mettre leurs projets en veilleuse. Plusieurs lieux de diffusion comme le Théâtre Prospero n'ont malheureusement pas le budget nécessaire pour produire une dizaine de créations par année. L'apport des subventionneurs s'avère donc indispensable pour soutenir les pièces présentées en accueil, assurer la vitalité du milieu et permettre l'émergence de nouvelles voies. Un spectacle programmé avec 15 dates garanties, annulé, c'est pas rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais pour rien au monde, on passerait à côté d'une expérience de jouer, de produire, d'être diffusé. C'est rare dans le milieu théâtral. Je dirais même que normalement, ici je le mets entre guillemets, parce que ça devrait pas être la norme, beaucoup sont prêts à se sacrifier pour avoir une occasion comme ça. Sacrifier du salaire, investir de l'argent personnel, de travailler pour travailler finalement. Selon les conventions officielles, au théâtre, on sait que le salaire minimum est environ de 100 $ par représentation. Une représentation, ça veut dire que tu arrives environ 2 heures d'avance, des fois plus, que le spectacle dure de 1 à 2 heures en moyenne, des fois plus. Et bien souvent, il y a une autre heure de démontage et de rangement, 100 $. Puis encore là, ça dépend de la salle, parce que moins il y a de public, moins il y a de salaire. Donc, ça peut aller en bas de 100 $. Puis pour les répétitions, le salaire minimum est d'environ 12,50 de l'heure. On dit souvent que le salaire moyen au théâtre, si on additionne toutes ces heures-là, des présences obligatoires est de 10 $ de l'heure. Ça, c'est des spectacles qui ont réussi à être subventionnés. D'un autre côté, pour les créateurs-créatrices, eux, il s'agit de leurs dépenses, chaque interprète. Les salaires des concepteurs-conceptrices avec un taux horaire nettement plus élevé. La location de la salle, la technique, le matériel, etc., etc., etc. Pour beaucoup de personnes, spécialement pour la relève, là, encore une fois, je le mets entre guillemets parce qu'au théâtre, tu peux être considéré comme la relève même avec 30 ans de carrière. Jouer dans une salle, dans un festival, ça vaut le risque parce que tu peux vendre ton spectacle, vendre des billets, faire connaître ton nom. Mais profondément, est-ce que ça fait vraiment du sens qu'on accepte d'être sous-payé, voire pas payé pour de la visibilité? Comme peu de gens ont accès à l'envers du décor, pour vous imaginer plus concrètement la situation, je vous lis un extrait d'un texte d'une personne qui a été le plus repartagée dans cette situation-là avec le Prospero. Elle s'appelle Clara Prévost. Dès qu'une compagnie de production théâtrale apprend que son spectacle, en parenthèse en devenir, sera programmé dans la prochaine saison d'un théâtre, elle amorce alors une série de processus. Elle travaille activement à former les équipes d'interprètes, de concepteurs et des techniciens, et donc en les invitant à participer au projet. Elle s'engage à le mener à terme, à les rémunérer, et leur demande de réserver des dates de répétition, de représentation à l'agenda. Elle met sur pied un plan de promotion et de communication et signe un contrat avec le diffuseur. Elle envoie un ou quelques comédiens, comédiennes se faire photographier pour le visuel de la saison théâtrale. Elle organise des rencontres de conception, se permet quelques laboratoires de recherche, d'exploration avec l'équipe de création. Pendant ce temps, elle ne sait toujours pas si elle recevra le financement nécessaire. Mais elle n'a pas le choix d'avancer, car le spectacle est programmé et doit être prêt pour la première. Budget A. Si elle reçoit toutes ses demandes de subvention, tous les artisans du projet sont bien rémunérés et le budget pour le décor, les costumes, les accessoires, les éclairages est raisonnable, mais intéressant au niveau créatif. Budget B. Si elle reçoit qu'une partie de ses demandes de subvention, la rémunération des artisans du projet descend au minimum des conventions et ou le budget pour le décor, les costumes, les accessoires et les éclairages baisse drastiquement. Souvent, les instigateurs du projet n'ont pas les moyens de se payer. Budget C. Si elle reçoit aucune subvention, c'est le partage de la recette, qu'il soit le total de la billetterie, après avoir donné un bon pourcentage au diffuseur, entre les artisans du projet, plus un mini-budget pour la conception du spectacle amassé soit en commandite ou en sociofinancement. Vous l'avez entendu dans mon échange avec Jade, sinon allez l'écouter sur Spotify parce que nos émissions sont toujours accessibles et c'est une discussion très intéressante. Je suis encore mitigée face aux initiatives qu'il y a en ce moment. Je suis pas certaine que le momentum inclut toutes les voix qui souffrent de ce manque de financement ou seulement ceux qui commencent à en souffrir. D'un côté, il y a quelque chose où je peux pas m'empêcher de penser aux privilèges que nous avons au Canada, de la liberté de faire de l'art, d'être capable d'en faire des métiers, de l'enseigner, quand dans plein de pays, c'est illégal ou ça peut seulement être une passion ou on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Je dis pas qu'il faudrait pas être payé. Je crois profondément aux carrières artistiques et son importance dans le monde. Mais d'un autre côté, je comprends pas qu'on parle pas encore de l'énorme écart des rémunérations dans l'industrie au Canada avec les têtes d'affiche qui font le même métier que toutes les autres. C'est peut-être ma posture comme artiste racisée, sous-représentée, marginalisée, du moins que fait que j'ai dû apprendre les rouages de financement assez rapidement dans ma carrière parce que l'autofinancement et l'autoproduction, ça allait être mon chemin de succès. Mais pour moi, ça a toujours été clair. On m'a toujours dit qu'on ne peut pas avoir toutes les subventions d'année en année, que c'était difficile, qu'il fallait être reconnaissant, puis qu'on ne savait pas si ça allait revenir une fois qu'on l'avait. Un peu comme le concept d'une bourse, quoi. Je dis pas du tout que la situation est normale, pas du tout. Je pourrais continuer longuement cette chronique, même sur les augmentations de d'autres salaires, de d'autres métiers qui profitent de cet art-là, versus les conditions atroces des gens qui font cet art. Mais je me demande seulement si on voit le problème de la bonne manière. Pour moi, le problème, c'est le processus des subventions qui nous demande d'avoir des confirmations et des diffusions pour avoir une meilleure chance, qui jusqu'à aujourd'hui était une « garantie » entre guillemets de financement. Parce que oui, absolument, c'est une production est programmée, elle devrait avoir déjà son financement garanti. Mais comment il se fait qu'on a des programmes de spectacle qui n'ont pas de financement? Comment ça se fait qu'on doit avoir une preuve de diffusion si on ne peut pas garantir un financement? Comment ça se fait qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont pris pour acquise des subventions pendant que d'autres vont pouvoir compter sur leurs doigts le nombre de financements qu'ils ont réussi à avoir dans leur carrière? Comment ça se fait que toute l'industrie culturelle se base sur trois sources de financement? Les conseils des genres régionaux, du Québec, du Canada. Comment se fait-il que les artistes professionnels se multiplient d'année en année parce que les parcours autodidactes, autres que les 6 écoles de théâtre au Québec, sont de plus en plus reconnus, mais que nous n'avons pas multiplié les possibilités de financement et l'accès à des lieux de diffusion, voire elles diminuent? Comment il se fait qu'on n'a pas de sécurité financière pour des artistes qui travaillent pour la société, comme l'intermittence en France, le régime de base de soutien au Royaume-Uni? Finalement, ma dernière question. Il est où le statut d'artiste au Canada?
C'était le billet éditorial politico-culturel de Palina Michelon. Merci Palina.
Ça fait plaisir Cyril.
On fait notre toute dernière pause, même pas parce qu'on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Je vais dire merci à nos invités. Je rappelle, le 4 novembre, c'est la quatrième édition du Fibrom Day. Allez suivre la dame Aissatou Sidibé sur les réseaux sociaux. Cherchez Vivre sans Fibrom. 100, c'est le chiffre 100. Cherchez-le et vous allez y avoir accès. Je vous dis, allez, il y a ce rôle d'ambassadeur là. Je pense que c'est vraiment pour la bonne cause. On doit se prendre en main en tant que communauté. Je dis merci à Shelby Jean-Baptiste et Béatrice Gravel de Pas de mentir, les auteurs derrière Pas de mentir. C'est sur Ici Tout TV, c'est gratuit, allez voir ça. Merci à Webster, c'est la section B2 au cimetière Côte des Neiges, Notre-Dame de Grâce. Je vous dis, même ne serait-ce que comme espace pour se promener, découvrir, aller visiter ce cimetière-là, il en vaut vraiment la peine. Merci à Madouanika Kadé, la députée de Bourassa Sauvé, d'être venue nous parler de ce rapport-là et surtout de nous avoir parlé du nationalisme libéral. Maintenant, je sais ce que c'est. Merci à mes compagnons de jeu aujourd'hui. Il y avait, vous venez de l'entendre, Palina Michelot, Carl Fossi et Michel Martineau. Pour cette émission, vous l'avez entendu avec ce son excellent grâce à la maestria de Monsieur Léo Mercier qui est caché de l'autre côté. Mon nom est Cyril Ekwala. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas mercredi. Nous sommes en rediffusion sur CIBL dès 15h. Allez sur CIBL directement sur le site. Vous savez que Meta c'est mort, et puis vous dire que dans la foulée, tout de suite après, il y a le bingo de CIBL qui nous permet justement de générer des revenus. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui Néo-Québec vous parvienne. Bonne semaine à toutes et à tous, et on se dit à dimanche prochain.
Bye.
Néo-Québec chronique.